Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en foutre, Olivier Brett en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faureau pour une émission très chargée où il sera question de l'impact de MLS, de ce qui se passe en Premier League, des résultats très surprenants au cours de la dernière semaine. Et en fin d'émission, comme c'est notre habitude, on va répondre aux nombreuses questions que vous nous avez posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Les gars, d'abord, bonjour.
Salut, ça va bien?
Bonjour Olivier.
Ça va? Super bien. On va commencer avec notre segment à domicile, si vous le permettez, parce que là, c'est de 2020 arrêtera jamais de nous surprendre. L'Impact était sur une séquence de 5 matchs sans victoire. Bon, avant ça, c'était 4 matchs consécutifs avec des défaites qui s'enchaînaient. La fin de semaine dernière, tu vas chercher un match nul contre Chicago. Tu te dis que peut-être tu es sur le point de remettre le train sur les rails, mais ce qui s'en vient, c'est la meilleure équipe dans l'Est, puis la meilleure équipe au classement général. Finalement, l'Impact se déplace à Columbus puis gagne 2-1.
Oui, c'est vrai que sur le calendrier, c'était sûrement une croix pour Thierry Henry, ce match contre le Crew de Columbus. On a une équipe qui a bien fait dans les circonstances. Comme Thierry Henry l'a rappelé, il y a l'absence de Kyoto et de Taider, qui sont quand même deux joueurs majeurs de son 11 partant. Mais on a vu un impact dans une autre configuration, une configuration sans ballon, une configuration qui subit, mais qui pour autant est quand même capable de se créer des très bonnes chances de marquer, que ce soit Sedic, Lapalainen et Boyan. Donc, intéressant, en tout cas trois points très 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 importants parce qu'on commençait vraiment à regarder de l'arrière du côté de l'Impact de Montréal.
Ouais, et c'est mentalement, Jean, que ça fait vraiment du bien parce que dans le contenu, c'est plus que perfectible. Thierry Henry a été transparent, a été très honnête par rapport à ça après la rencontre. Le système, c'est un retour à cette défense un peu hybride, à 3 ou 5 derrière, ça dépend comment on la regarde, mais sachant qu'en face, tu avais une équipe qui allait toujours être en maîtrise du ballon, ce que tu voulais surtout, c'était pas prendre l'eau défensivement, mais d'un point de vue caractère d'une équipe qui est pas sur une bonne passe là depuis près d'un mois maintenant, c'est énorme d'aller chercher un résultat comme celui-là, sans Kyoto, sans Taider, sans Okwonkwo. Je le sais qu'en face, il manquait des joueurs aussi, mais pour l'espoir que ça donne à cette équipe-là, c'est énorme comme résultat.
Non, tu l'as dit, et dans la présentation, je pense que c'est quelque chose qui doit rester en trame dans tout ce qu'on va dire sur le match hier. L'Impact a joué l'une des meilleures équipes de la Ligue en ce moment, et surtout une équipe qui était connue, réputée ces dernières semaines pour sa défense. Ce que l'Impact a fait, ouais, il y a des choses qui vont être perfectibles, ça tout le monde est d'accord. Mais c'est vrai qu'au niveau, pas simplement comptable, mais au niveau moral, suivant un très bon résultat, un bon résultat, disons, contre Chicago, dans la mesure où c'était enfin des points et c'était déjà quelque chose au niveau de la façon de concrétiser des occasions qui vraiment se réalisaient. Je pense que c'est un pas supplémentaire devant. Maintenant, sur la manière, sur ce qu'on dit, il y a encore des petites choses qui me gênent. Oui, c'est vrai que ce type qui était on voit, et quand on regarde, parce que c'est aussi quelque chose qui revient régulièrement, le nombre d'occasions concédées, je pense que c'est au fond pas vraiment une équipe qui est faite pour subir et qui n'est pas vraiment une équipe qui est faite pour être longtemps sans ballon. Je pense qu'elle s'exprime beaucoup, beaucoup mieux avec ballon. Le problème qui va se poser maintenant, et je veux dire le pas à franchir maintenant, c'est sans doute d'être capable d'aller le reconquérir un petit peu plus haut, d'avoir ce push de caractère supplémentaire pour faire les quelques mètres supplémentaires, aller gagner le ballon, parce que je ne vois pas cette équipe continuer de défendre comme elle l'a fait, parce que ça fait quand même régulièrement où elle défend dans sa surface, elle défend parfois en reculant, et le but de Columbus, il vient parce que les gars reculent et sont face au but. C'est vrai que c'est un malencontre, la déviation sur Binks, mais ça arrive parce que tu recules et tu es face au but. Ça aurait très bien pu arriver sur le ballon remis de la tête qui passe devant le but, ça passe derrière tout le monde, mais n'importe qui se retrouve sur le chemin à ce moment-là marque contre son camp. Donc c'est quelque chose qui est sans doute à regarder, et je crois que c'est une équipe qui, avec un peu plus de caractère, doit être capable de jouer un peu plus haut et d'aller reconquérir le ballon un peu plus haut.
Et c'est d'ailleurs ce que l'Impact a réussi à très bien faire pendant 35 minutes en début de match. Les 10 dernières minutes de la première mi-temps ont été compliquées. La fin de match a été compliquée aussi. À ces deux moments-là de la rencontre, c'était une équipe, comme tu l'as dit, Jean, qui reculait beaucoup. Et c'est là qu'on a vu la majeure partie des 30 centres qui ont été livrés par le Crew de Columbus. Du côté de l'Impact, juste pour donner un élément de comparaison, c'est seulement 5 centres qui ont été tentés par l'Impact, qui a concédé évidemment beaucoup de possessions. Mais Jean, tu parlais du résultat comptable. L'Impact se retrouve maintenant 8e avec 20 points, juste devant Atlanta qui est en 9e position avec 18, ex-aequo avec Nashville en 10e. Et là, Chicago est la première équipe en dehors des séries pour le moment avec 4 points d'écart avec l'Impact de Montréal. Donc ça, ça commence à être un petit coussin. Si tu réussis à aller chercher au moins un match nul contre Philadelphie dimanche prochain, ben là, les séries, tu commences à y penser sérieusement. Ceci dit, Sid, on est dans une réalité avec toutes ces équipes-là qui se battent pour les quelques places qui vont être disponibles de la 7e, disons, à la 10e position. Tu perds le prochain, tu es revenu dans le trouble, puis on est presque de retour à la case zéro.
Oui, oui, non, c'est sûr qu'il ne faut pas forcément s'enflammer, comme j'appuie Jean sur le contenu qui est parfois laissé un petit peu à désirer. Effectivement, la possession, 63% de possession pour Columbus, 18 tirs concédés, ils sont dominés quasiment du double au niveau des duels, ils font plus de fautes que Columbus, mais de façon large. Binks, encore une fois, très nerveux, aurait pu se magasiner un carton rouge. Y a quand même beaucoup de choses qui sont à corriger, mais effectivement. Mais après, il y a des bonnes choses. Je pense que Clément Diop a bien répondu. Trois beaux arrêts. Je pense que Boyan commence à nous faire poser des questions sur son futur. Donc, c'est pas mal du tout. Mais on a encore des interrogations. On a pour un Thierry Henry qui parlait de sa profondeur. Encore une fois, il est resté avec son 11 partant pendant très longtemps, malgré les différents scénarios de match. Donc, à voir comment sur la durée, il va s'ajuster justement avec les retours de cadres comme Kyoto et Tider. Donc c'est sûr qu'on ne peut quasiment pas isoler ce match, ce qui est une victoire très importante, cruciale et sur le terrain du leader, oui, mais on ne peut pas l'isoler de la série en cours avec le match de dimanche contre Philadelphie qui va vraiment nous donner finalement, d'un point de vue complètement comptable, on est déjà rendu là pour l'Impact de Montréal. Est-ce qu'on est en sortie de crise? Est-ce qu'on est dans un début de nouveau cycle? Est-ce qu'on amorce la fin de saison en force? Donc c'est dimanche qui va nous donner beaucoup plus de réponses pour analyser le match de Columbus et celui de Chicago dans ce cycle de 3 matchs.
J'ai l'impression que tu soulèves toutes les mêmes questions que pour le confinement, Sid. Je ne sais pas si je dois me réjouir du fait que notre vie est cohérente en ce moment entre la société de manière générale et l'Impact de Montréal. Bref, c'est peut-être le temps qui nous le dira. Avant de conclure sur ce match-là de l'Impact, Jean, je voudrais t'entendre sur la décision de Thierry Henry de faire entrer Maxi Urruti plutôt que de faire entrer un joueur comme Mason Toy qui aurait pu avoir ses premières minutes. Comment tu as interprété ça?
Ouais, je pense que la situation, je pense que c'est vraiment une question d'opportunité, de situation. Tu mènes 2-1, tu sais que ça va pousser, ça va vraiment peser sur toute la dernière partie du match. Tu veux un attaquant qui est à l'aise, à l'aise. Tu vas me dire, Routier à l'aise, c'est pas forcément compatible, mais je connais Olivier. Mais tu veux un attaquant qui va pas se poser la question de je débute, je veux absolument bien sûr, je veux vraiment assurer. Tu veux un attaquant qui va être capable de partir, parce que l'idée c'est là, hein, pression haute, ligne très haute de la part de Columbus. Tu veux un attaquant qui va décrocher et partir complètement derrière, pour être dans des positions de 1 contre 1, long ballon. Hop. Donc, tu veux quelqu'un qui ne se pose pas la question, en plus de « je suis dans un nouveau contexte », un nouveau contexte, pour un nouveau club, pour Mason Toy, et « je veux bien faire, je veux absolument bien faire, je veux absolument prouver ». Tu lui donnes la chance dans probablement un autre environnement, peut-être même selon, parce que là, on va rentrer aussi dans des nouvelles séries de matchs relativement rapprochés, ou peut-être même le voir pour une plus longue, pas simplement disque, peut-être un peu plus long, très rapidement.
Oui, moi, personnellement, j'avais aucun problème à voir Maxi Urruti entrer. D'abord parce que le contexte du match faisait en sorte qu'un attaquant avec ce genre de volume de jeu-là, c'était utile. Puis là, on parle juste de profil. On ne parle pas de nom Urruti versus Mason Toy ou quelqu'un d'autre qui aurait pu être utilisé. Et l'autre chose, c'est que dans la gestion humaine, ben, tu donnais une occasion à Maxi Urruti de montrer qu'il restait au-dessus de la mêlée Et là, la mêlée, il faut comprendre que c'est Mason Toy dans la hiérarchie des attaquants. Après, c'est à Urruti de montrer sa valeur ou non. Dans ce cas-là, pour moi, ça a été une opportunité ratée pour Urruti qui n'a pas été particulièrement bon. Et bien là, ça ouvre la place à Thierry Henry qui peut faire jouer Mason Toy. Et très honnêtement, là, moi, je ne vois pas au cours des 4-5 prochains matchs comment Urruti, dans le même contexte, serait celui qu'on fait entrer. Mais pour ce match-là, qu'on ait décidé de le faire entrer avant Mason Toy, j'ai pas de problème avec ça. Sid, je veux t'entendre sur une autre équipe canadienne. Match compliqué en fin de soirée. C'était joué après le match de l'Impact mercredi soir à Columbus. C'est les Whitecaps de Vancouver qui jouaient face à San Jose qui était à domicile. Les Whitecaps se font expulser un joueur en deuxième mi-temps. Finalement, c'est une défaite de 3-0. Ça va pas bien pour les Whitecaps qui sont avant-derniers, tout juste devant le LA Galaxy, qui est bon dernier dans l'Ouest. À quel point ça chauffe en ce moment pour Marc Dos Santos? Est-ce que 2020 fait en sorte que de toute façon, c'est sûr qu'on le voit de retour l'année prochaine ou est-ce que là, il se retrouve en difficulté selon toi?
Disons que c'est la meilleure année pour avoir ce type de bilan. C'est vrai que c'est compliqué à Vancouver, c'est compliqué. Je trouve que c'est une équipe qui est largement en dessous, peut-être à côté avec LA Galaxy, mais pour d'autres raisons. Mais c'est une équipe qui est vraiment, c'est difficile aller voir jouer. Puis je suis un peu tombé comme ça par hasard sur le match hier soir. Et puis deux cartons rouges pour la première de Evan Bush. Donc ça l'a pas dépaysé par rapport à l'impact de Montréal. Et on a une équipe qui, comme San José, qui est quand même en pleine bourre. Ils vont sur leur troisième victoire de suite. C'était une équipe qui était aussi en grosse difficulté au début de saison, mais qui là, voilà, semble trouver quand même une certaine forme. Puis c'est intéressant. Du côté de Vancouver, écoute, moi, c'est intéressant, c'est qu'à chaque défaite, souvent, j'écoute les points de presse de Dos Santos qui sont toujours très lucides, très cohérents. Les analyses sont bonnes de ce qui manque à son équipe. Maintenant, voilà, est-ce qu'il a complètement les ressources pour faire les changements? Est-ce qu'au niveau de la hiérarchie, enfin, au niveau du bureau-chef, on pense que c'est l'homme qu'il faut pour faire ces changements? Ça, je sais pas. Maintenant, c'est vrai que pour lui, ça reste quand même favorable que dans une année aussi tronquée, une année compliquée. Si l'année elle est compliquée pour Thierry Henry à l'Impact de Montréal, elle est séparée pour toutes les autres équipes de la Ligue. Faut pas non plus l'oublier. Ça, c'est quand même quelque chose de peut-être qui peut être un élément à prendre en considération pour le coach canadien.
Ouais, ça l'est encore plus pour les équipes canadiennes et surtout les Whitecaps. Écoute, t'es obligé d'aller chercher Evan Bush. Oui, c'est parce que t'apprécies le travail de Evan Bush, mais c'est aussi parce que tous tes gardiens sont tombés au combat. Souvenez-vous, le tournoi plutôt à Orlando, il y a un paquet de joueurs qui décident, des joueurs importants, qui décident de rester à la maison. Là, tu te demandes, est-ce que tu aurais pu aller chercher des points supplémentaires? Et c'est là où tu essaies de refaire l'histoire un peu. Un autre facteur peut-être atténuant, Jean, c'est le fait que Marc Dos Santos, bon, est-ce que c'est pour positionner son équipe pour l'an prochain? Est-ce que c'est par obligation? Est-ce que c'est aussi pour montrer que, ben écoute, j'ai pas les ressources en ce moment? Mais Marc utilise beaucoup de jeunes joueurs. Ça, à court terme, ça peut l'excuser. Ça peut aussi permettre à des joueurs de prendre du galon, mais ça peut aussi placer les choses pour l'an prochain. Et moi, ce que je vois, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un Marc Dos Santos qui pourrait dire, on a placé des pions en 2020 en vue de 2021. En gros, ben, il faut que je sois là en 2021 pour être capable de continuer de les faire avancer.
C'est ça. Je pense que c'est vraiment la base quand tu as amené la question au départ. Quoi. Le point, c'est que Marc, il a été pris pour une très bonne raison à Vancouver. C'est amener un projet sur du long terme. Avec Marc Dos Santos, on sait qu'il travaille sur du long terme, qu'il aime travailler avec des jeunes, les pousser, leur donner leur chance, les amener. On a commencé à le voir l'année dernière. C'est pour ça, quand tu dis est-ce qu'il est en danger, ça n'irait pas avec la logique de l'embaucher. Hein. Très, très clairement, l'idée d'avoir Marc, c'est de travailler sur du long terme, faire confiance à des jeunes, ce qui correspond peut-être aussi à une situation financière particulière du club. Mais en tout cas, il y a cette volonté-là. On a vu des éléments l'année dernière. C'est vrai que cette année, cette progression, en tout cas cette mise en place qu'on avait commencé à voir, elle est ralentie. Peut-être pas arrêtée, mais clairement ralentie. Mais oui, ça amène, je dirais, pas une obligation, mais une nécessité de montrer l'année prochaine que le travail qui a été fait, même s'il n'y a pas eu des résultats forcément concrets cette année, le travail qui a été fait donne, disons, permet à l'équipe de progresser pour la saison prochaine. On a vu quelques éléments récemment dans des matchs contre Toronto, contre l'Impact. Il y a eu des bonnes séquences, des bons moments. Il y en a eu des nettement moins bons. Mais on voit que c'est quand même une équipe qui est sur un chemin, qui a une avancée.
Et juste pour rester dans la réalité de 2020, parce qu'on est déjà en train de parler de l'an prochain, c'est vrai que ça va pas bien pour les Whitecaps de Vancouver, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, avant-dernier, mais ils sont seulement à 4 points d'une place en série en ce moment, avec 7 matchs à jouer. Donc, c'est encore jouable. Il s'agit d'aller chercher, tu parlais tout à l'heure, Sid, de San Jose, qui s'en allait nulle part, qui là se retrouve sur une belle séquence avec des points qui arrivent les uns après les autres parce que tu es capable d'enchaîner des victoires. Ça pourrait changer vite de trajectoire, mais c'est ce qu'on retient en ce moment. Il faut que tu changes la trajectoire parce qu'elle n'est pas du tout ascendante par les temps qui courent pour Marc Dos Santos et les Whitecaps de Vancouver. Si vous le voulez, les gars, on va passer du côté de notre segment en temps additionnel. Et là, Jean, explique-nous ce qui se passe en Italie. Parce que tu as Naples qui n'a pas le droit de voyager. Tu as la Juve qui semble vouloir en profiter. Tu as des matchs qui sont reportés, pas reportés. Des cas de COVID qui font en sorte que ben, c'est un gros bordel en Italie en ce moment, puis ça semble être les hautes instances qui doivent fédérer tout ça, parce que là, on est en train de laisser au club la décision de matchs qui sont gagnés par forfait ou non. Ça a été le cas, du moins, avec ce match-là, joué le week-end dernier avec la Juve, qui s'est pointé au stade, mais pour jouer contre personne.
Oui, enfin, pointé au stade. Ça, c'était une façon de montrer quelque chose. C'était un petit peu de la relation au public. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a en fait un mélange de responsabilité et de prise de décision. Ce qui se passe, c'est que donc Naples doit aller jouer à Turin. Dans la semaine, Naples a deux cas, deux joueurs qui sont révélés positifs. Et le président De Laurentiis envoie dans la semaine un message à Agnelli, président de la Juventus, en disant « Est-ce qu'on peut reporter le match ?» Voilà, on a deux cas. Du côté de la Juventus, on dit « Non, parce qu'il y a un protocole qui prévoit ce genre de situation. Absolument pas, non. » Et donc, la Juventus fait comme si de rien n'était, comme si le match devait avoir lieu. Du côté de Naples, on se prépare quand même. Et d'ailleurs, l'équipe est, selon ce que j'ai compris, est à l'aéroport lorsque arrive une recommandation, une décision même des autorités médicales de la région, de Campanie, disant non, vous ne pouvez pas y aller parce que vous avez ces deux cas et que le risque est grand. Ce qui se passe, c'est que dès il y a quoi, c'est mis en place par, avec la Ligue italienne et le gouvernement, qui est un protocole qui remonte à mai-juin dernier, qui a permis la reprise et la fin de la saison dernière, qui était l'idée était de, même s'il y a des cas positifs, de créer une bulle, comme on l'appelle ici, qui permet quand même à l'équipe et à l'environnement de l'équipe de voyager, de faire les matchs, à condition que le reste de l'effectif et de l'entourage soumis à des tests réguliers, soit négatif. Ça, c'est cette règle-là. Mais depuis, il y a eu cette deuxième vague et le gouvernement italien a donné le mois dernier des pouvoirs beaucoup plus accrus aux régions, aux décideurs locaux. Et c'est cette décision-là, donc, qui est du gouvernement de Campanie, qui a fait que Naples est resté à la maison. Donc, on a deux juridictions qui ne sont pas forcément contraire, mais on ne sait pas laquelle finalement a préséance sur l'autre. Du côté de la Juventus, on dit ben non, c'est ce qui a été mis d'accord, ce qui a été mis en place avec la Ligue et le gouvernement, donc qui remonte au mois de juin. Du côté de Naples, on dit non, ce sont les dernières directives avec la direction, les directives pardon, régionales. Donc on ne sait pas trop exactement où on va, on ne sait pas trop qui a raison. Pour l'instant, la Ligue semble vouloir donner match gagné à la Juventus et on sait très bien que du côté de Naples, on va se battre contre ça. Donc, il y a encore cette menace d'aller devant des tribunaux, devant les cours, etc., ou devant les juridictions. Donc, ça va faire encore durer. Est-ce que la Ligue italienne ne veut pas, c'est que ce genre de situation se reproduise et ça va très certainement arriver. Hein. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand et de combien de cas ça va vont se produire comme ça. Donc là, elle est face à une situation, surtout avec un match, un super match, ils ont un match de gala donc qui a fait parler un petit peu, qu'on attendait, qui a fait parler un petit peu partout. Et certain qu'il va falloir que la Ligue italienne se bouge, et se bouge rapidement pour prendre une décision et pas rester entre deux chaises comme ça.
C'est de la Juve en ce moment. Est-ce que c'est comme un attaquant qui sait très bien que l'arbitre aurait dû siffler une faute, mais qui continue, qui met le ballon au fond, qui marque un but gagnant, puis qui dit « Ben moi, on m'a toujours appris à jouer jusqu'au sifflet. Je le sais qu'il y a peut-être un facteur éthique à prendre en considération, mais j'y vais avec les règlements, puis ben le but est bon. »
Oui, oui, c'est sûr que la position de la Juve face à Naples était prévisible. Maintenant, il faut aussi prendre en considération la jurisprudence. Genoa a joué son dernier match. Il y avait sept joueurs qui avaient un cas qui était positif. Maintenant, on arrive sur une situation qui est extrêmement particulière. La fédération italienne, en tout cas la Serie A, d'où la décision qu'ils vont prendre pour Juve Naples pourrait entre guillemets, chambouler tout le reste du championnat. La plupart des fédérations et des ligues décident de, à partir du moment où il y a 13 joueurs qui sont négatifs, hein, qui sont pas atteints, on vous recommande d'aller remplir le reste de l'équipe avec votre réserve et jouer le match. Cette notion-là, si la Ligue va dans le sens de Naples, je crois qu'en fait qu'elle va se tirer une balle dans le pied pour le reste du calendrier. Ce sera quasiment impossible pour eux, parce que des cas ils vont en avoir, ça c'est sûr. Ce sera impossible pour eux de continuer. Malheureusement pour Naples. Maintenant, De Laurentiis, est-ce qu'il lui fait pression au niveau des autorités locales pour aussi qu'on ait cette petite lettre, ce petit mot du médecin interdit de voyager. Et il y a toutes sortes de jeux de coulisses aussi dans le foot italien qui sont assez fascinants. Mais en tout cas, c'est certain que la Ligue, la décision qu'ils vont prendre va faire jurisprudence pour le reste de la saison.
Ouais, c'est le festival de l'analogie aujourd'hui. Sid, félicitations pour celle-là avec le petit mot du médecin. Maintenant, Jean, si on se déplace du côté de l'Angleterre, quelle analogie t'es capable de nous sortir pour United qui se fait exploser à la maison par le Tottenham Hotspur de José Mourinho, puis Liverpool, champion en titre, qui se fait exploser par, c'est un peu moins glamour ça, Aston Villa?
Je ne sais pas si on va trouver une analogie, on va voir. Mais c'était dur pour la tête, ça, hein, la fin de journée, quand tu vois, bon, déjà le premier, tu dis, bon, Tottenham quand même. C'est une équipe qui était capable d'aller chercher un bon résultat à Old Trafford. De cette façon-là, certainement pas. On l'attendait pas, mais que ce soit suivi tout de suite par Liverpool à Villa, c'est il a fallu se remettre la tête à l'endroit, hein, clairement. Tout de suite, si tu as un petit peu regardé ce qui a été écrit, ce qui a été dit, tout le monde a dit attention, comparons pas les deux, parce qu'il y a des problèmes inhérents à Manchester United qui ne sont pas les mêmes à Liverpool. Dans le cas de Liverpool, on a avancé, disons, une sorte de plafond. On sentait que les joueurs avaient l'air un peu moins motivés, avaient l'air un peu moins combatifs, un peu plus passifs. Ça s'est vu dans plein de choses. Ça s'est vu dans les duels qu'ils ne gagnaient pas. Ça s'est vu dans les occasions, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions pour Villa. Et dans les buts, trois buts qui sont marqués par Aston Villa, qui sont issus, enfin qui viennent de déviations sur des défenseurs de Liverpool. 3 sur 7, ça fait énorme. Et la question que tu poses, c'est clairement pourquoi il y a eu une frappe au départ, pourquoi on laisse la frappe partir. C'est clairement qu'il y a du retard, c'est clairement qu'il y a une mauvaise position au départ. Donc là-dessus, je crois que c'est un problème, disons, pour Jürgen Klopp, espérons-le, ponctuel, qu'il s'agit de recadrer un petit peu, de remettre tout le monde un petit peu motivé. Là, il y a une coupure internationale et qui pourrait faire beaucoup de bien pour ressourcer et puis relancer, parce que son style de jeu, on l'a déjà dit aussi beaucoup de fois, est taxant, est super taxant. Et c'est pas non plus quelqu'un qui fait une énorme tournante, hein, au niveau de son effectif. Donc peut-être que il est temps un petit peu de mettre le holà. Dans le cas de United, il y a beaucoup plus de questions. Il y a beaucoup plus de questions et on en avait mis une partie sur la table la semaine dernière déjà. Donc il y a un problème qui est beaucoup plus organique, qui vient beaucoup plus au sein du club, au sein de pas simplement de Solskjaer, même si Solskjaer a une grosse responsabilité parce que, et à un moment, je pense qu'il faut dire, ok, est-ce que Solskjaer a des limites au niveau de ce qu'il sait faire? Là, il faut quand même qu'on pose la question. Est-ce qu'il est maintenant l'homme de la situation? Il l'était il y a un peu plus d'un an quand il a remplacé Mourinho. Maintenant, on se pose des questions. Et au niveau de l'effectif qui est clairement pas aussi riche et aussi prêt à être une menace en haut de la Première Ligue que ce qu'on pensait.
J'ai vu un excellent tweet passer à la conclusion de cette journée-là le week-end dernier. Je pense que c'était des supporters un peu cyniques de Tottenham qui disaient « Ça prend juste Tottenham Hotspur pour se faire déclasser le jour même où ils réussissent à battre Manchester United 6-1 à Old Trafford parce que t'as Aston Villa qui s'en va battre les champions en titre par 7-2. Comme quoi, on gagne, mais on gagne pas tout le temps du côté de Tottenham. Sid, si je t'avais dit il y a quelques mois que en regardant puis là, je comprends, là, on a joué quoi, 3 ou 4 matchs. Mais en regardant le classement de la Premier League, tu aurais les deux équipes de Manchester en 14e pour City et 16e position pour United. Tu aurais dit quoi?
Non, je t'aurais pas cru, certainement. C'est vrai que dans le Big 6, comme on aime communément l'appeler, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements, beaucoup, beaucoup de faux départs. Et ce qui sont très différents, les raisons sont vraiment très, très différentes. Je pense que du côté de Liverpool, on a vraiment de l'ennui et de l'arrogance. C'est une combinaison des deux. Une équipe qui peut tourner l'interrupteur on-off. On l'a vu contre Arsenal. Waouh. C'était du Liverpool de Ligue des Champions. Et après, on le voit contre Aston Villa. Bon, quand ça ne le tente pas et que derrière, on joue bien les coups, Grealish et Winks et toute la gang, on en prend 7. Donc, mais Liverpool, bizarrement, moi, je ne m'inquiète pas trop pour eux. D'autres comme United ou comme City, ça commence à devenir un peu plus récurrent, un peu plus problématique. Maintenant, sur la distance, je crois que c'est des équipes qui vont quand même pouvoir se remplacer. Tottenham, pareil, parfois, Tottenham, il y a du bon, il y a du moins bon. Je pense que Mourinho a savouré. Mais c'est vrai que le classement de la Première Ligue, et je pense que Jean l'avait dit il y a quelques émissions, lorsqu'il avait pointé Everton, il y a des belles histoires, il y a des belles histoires. On sait qu'on a mis beaucoup de temps sur Leeds la dernière fois, mais il y a des très belles, il y a des très belles histoires. Ce 4-4 d'Everton et je pense 3-3 d'Aston Villa, peut-être peut mener à des choses sur différentes de ce fameux Big Six, comme on dit.
On avait parlé, on va en reparler d'ailleurs du Big Six parce qu'il y a une question qui nous a été posée à ce sujet-là. On va y répondre dans nos sujets chauds dans quelques instants. Tu as parlé de Leeds qui est présentement 8e pour une équipe nouvellement promue. C'est tout à fait acceptable. Mais tu as parlé d'Everton aussi, justement, Jean. Parlons-en parce que Everton est premier. Deuxième, c'est Aston Villa. Puis oui, je parle du classement de la Premier League et je pars d'en haut, je pars pas d'en bas. Everton, premier. Aston Villa, deuxième. Arsenal, quatrième. Leicester, oui, troisième. Arsenal, quatrième. Liverpool, Tottenham et Chelsea suivent, je le répète, les deux clubs de Manchester. City en 14e et United en 16e position. Dans tout ça, on remonte à il y a un peu moins d'un an, c'est au mois de décembre 2019 que Carlo Ancelotti arrivait à Goodison Park, Jean. Je me souviens, on avait eu une longue discussion à savoir est-ce qu'il est capable de construire quelque chose avec un club comme Everton? C'est pas tout à fait le profil de club qui a toujours vu débarquer un gars comme Carlo Ancelotti. Ben, finalement, c'est toute une réussite jusqu'à maintenant cette saison.
D'abord, pour reprendre le classement que tu as donné, les gars, bienvenue dans les années 80. Oh, les gars! Allez, c'est complètement fou. Ancelotti, ouais, ça a surpris beaucoup parce que c'est pas le profil. D'habitude, on le voit plus traîner. S'occuper de clubs pas mal plus huppés, des clubs qui ont déjà un gros, gros palmarès. Alors, avec lui vient le bagage, on dit toujours, oui, parce qu'il est là, parce que lui, il préfère s'occuper de vedettes et tout. Je crois pas, je crois pas. C'est Carlo Ancelotti et les clubs qui vont le chercher sont des clubs qui sont d'abord capables de se le payer et
Ouais.
deuxièmement, des clubs forcément qui eux-mêmes ont déjà pas mal de joueurs vedettes. Le projet de Everton, il aurait pu aller chercher plus d'argent. Il est ancien. On a vu qu'il y avait quand même un projet qui avait été mis en place au niveau du recrutement régulier. Il fallait sans doute quelqu'un qui soit capable que la mayonnaise prenne. Hein. C'est vraiment parce que tu regardes un petit peu toutes les lignes, tu regardes un petit peu tous les postes, c'est pas mal ce qu'il y a. C'est pas mal ce qu'il y a. Et ce que du côté d'Everton on voulait, c'est amener. C'est Carlo Ancelotti. Qu'est-ce qu'il amène, Carlo Ancelotti? Il amène son savoir-faire, il amène son nom, il amène son carnet d'adresses. C'est ce qui s'est passé quand il est arrivé au PSG. Le PSG n'était pas au niveau, quand il y est arrivé, n'était pas encore au niveau du Bayern ou du Real Madrid. Hein. Il est arrivé et c'est grâce à lui que PSG a pris déjà une autre dimension. Et moi, je suis là où je suis vraiment. Où je pense que ça se voit très clairement, c'est l'arrivée de James Rodriguez. Parce que c'est un joueur qui était du fond à Madrid, qui avait très peu de temps de jeu, qui avait absolument plus aucune confiance, qui s'était relancé à un moment au Bayern, oh, quand Ancelotti y est passé, donc il lui a fait confiance. Je pense que l'occasion de retrouver Ancelotti, donc retrouver un entraîneur avec qui ça collait bien, avec qui il était en confiance, lui a plu. Et aussi en se disant qu'il n'avait pas beaucoup non plus d'autres options. Et je crois que c'est ce qu'on voit. Rodriguez est excellent depuis qu'il est arrivé, mais il y a d'autres joueurs. Richarlison, Calvert-Lewin qui devient un attaquant vraiment à prendre en considération. Derrière, avec Keane, avec Mina, avec Digne, c'est solide. L'arrivée de Haaland de Naples, qui est un très très bon milieu de terrain, tout comme Doucouré, je pense que ça va peser. Tu as encore André Gomes qui n'est pas disponible là, mais qui va apporter du plus. Donc je pense que c'est une équipe qui est en train de se mettre en place, qui avait juste besoin d'un entraîneur pour fixer un petit peu les choses et donner une sorte de concept, d'idée vers laquelle ça va. C'est du jeu beaucoup moins direct, ça essaie de tenir un petit peu le ballon, de faire jouer. C'est une équipe qui offre du jeu et je trouve que ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et maintenant, on parle de James Rodriguez, oui, c'était pas mal, un bon coup. Imagine si James Rodriguez, au début du mois d'août, avait signé pour United, tout le monde en aurait parlé, ça aurait été le truc phénoménal. Or là, ouais, bon. Everton, c'est bien, c'est surprenant. Regarde, c'est parce que Everton n'a pas encore le nom, mais je pense qu'ils reviennent très rapidement.
Oui, et je sais qu'on a d'autres priorités en ce moment comme société. Puis là, je parle de la planète au complet, je parle de la planète foot, mais d'avoir eu des gens dans les estrades pour le derby de Merseyside qui s'en vient en fin de semaine, Liverpool contre Everton, ça aurait été extraordinaire. Bon, ça reste une affiche super intéressante à suivre au cours des prochains jours. Pour nos sujets chauds maintenant, les gars, on va commencer avec, tiens, une question du docteur Foot à laquelle je vais répondre seul, puisque j'étais à l'origine de cette situation-là. Docteur Foot nous demande, c'est qui est en charge de la question du staff, de l'inventer? En fait, on ne l'invente pas. Doc, on la partage. Ça a commencé avec notre producteur Mathieu Jolivet, que je salue d'ailleurs, qui nous écoute assidûment toutes les semaines. Il y a également notre expert des montages libéraux qu'on utilise lorsqu'on fait des matchs en studio à RDS, Kevin Di Cesare, qui a également contribué à plusieurs occasions à ces questions-là. Et des fois, ben, c'est moi qui ai le goût de savoir, ben, ce que vous pensez d'un sujet qui n'a peut-être pas été soulevé par nos auditeurs sur Twitter. Donc voilà, Doc, comment ça se passe pour la question du staff. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Il y en avait une la semaine dernière et cette semaine, ben, il n'y en a pas. Donc, la porte était grande ouverte pour des questions comme celle de Félix Lapointe qui nous demande « Boyan est-il en voie de se mériter un contrat de joueur désigné avec l'Impact pour la prochaine année ou est-ce qu'il y aurait une possibilité de restructurer son contrat et de le garder sans le statut de joueur désigné. Sid, t'en penses quoi?
Alors, est-ce qu'il est en train de se magasiner une levée d'options? Oui, c'est sûr. Dans les 4 derniers matchs, il est à l'origine des 3 buts. Ça paraît pas autant sur la feuille de match, parce que bon, quand tu tires sur la barre transversale et qu'après c'est repris, c'est pas une passe décisive. Quand tu tires sur le gardien et que c'est repris, c'est pas une passe décisive non plus. Mais Boyan est très actif, c'est un Boyan de haut niveau qu'on voit. Maintenant, l'échantillon est beaucoup trop court. On a besoin de voir si c'est sur la durée. Dans le fond, ce que j'ai envie de dire, c'est que à la fin de la saison, faudrait même pas qu'on ait à se poser la question. Si on a à se poser la question, c'est que la réponse est non.
Ouais, et
à
ce moment-ci, je pense que dans ce cas-là, parce que c'est super intéressant ce que tu dis. Si Boyan joue des matchs comme il a joué ces 2-3 derniers jusqu'à la fin de la saison, est-ce que ça fait en sorte que tu n'as pas de questions à te poser? Est-ce que l'échantillon, à ce moment-là, là, sur les 7 matchs qui restent, va avoir été suffisant à tes yeux?
Oui, pour moi, oui. Ça fera quand même 15 matchs. Après, on pourra mettre en facteur les blessures. On pourra mettre en facteur que, ben, qu'il a quand même joué sous Rémi Garde aussi, qu'il y a l'adaptation aussi avec. Enfin, il y aura beaucoup de facteurs qui, tout d'un coup, basculeraient du côté de j'ai envie d'en voir plus. Alors que il y a 4 matchs, moi je te le dis pas. C'est certain qu'il y a 4 matchs. Pour moi, son contrat, il faut passer à autre chose. Maintenant, ça va dans les deux sens. Pour éviter une piati bis repetita, est-ce que le joueur, lui, veut rester? Sa dernière entrevue au point de presse semblait dire que c'était pas vraiment le temps d'y réfléchir, que sa famille le manque, ça fait 9 mois qu'il les a pas vus. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, et peut-être que le joueur n'a pas envie de rester. À ce moment-ci, genre, il ne faudrait même pas hésiter une demi-seconde et passer à l'autre appel, parce que un joueur de ce calibre-là, qui est pas motivé, qui est avec ce prix-là, parce que c'est aussi une question budgétaire, ça à ce moment-ci, non, il faut pas aller de l'avant.
Et c'est un prix de 1,5 million en ce moment. Donc, on peut imaginer que c'est une augmentation importante à partir de l'an prochain si tu en fais un joueur désigné. Et c'est là où, pour moi, ça devient hyper intéressant de considérer un retour de Boyan pour la saison prochaine, mais en renégociant des nouveaux termes s'il a envie de revenir. Et sinon, moi, je vois pas comment tu peux te claquer des 2, 2,5, 3, peut-être même 4 millions pour un gars comme Boyan, parce qu'au départ, là, ce que tu disais, si on va l'amener pendant un an et demi, lorsqu'il va arriver, ben, le contrat de Nacho Piatti, parce que c'était l'année d'option de Nacho Piatti cette année, il va être terminé. Piatti va être de retour en Argentine, puis on va pouvoir claquer notre argent sur un gars comme Boyan. Mais là, il n'en a pas fait assez. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il apporte sur le terrain en ce moment. Mais de débourser des millions sur lui pour... Parce que ce que tu as dit tantôt, Sid, c'est les bons mots. Pour en voir plus, mais ben là, pour en voir plus, d'habitude, c'est plus aux joueurs de faire des sacrifices qu'à toi de claquer de l'argent basé sur ce que tu t'espérais il y a un an et demi. Donc, ça va être vraiment intéressant à suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois. C'est pour ça, puis ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça, c'est pour ça que l'Impact a maintenant un directeur sportif. C'est dans la cour d'Olivier Renard, et ça va être fascinant de voir comment il va gérer ce dossier-là en compagnie de Thierry Henry, bien sûr, qui a son mot à dire pour des joueurs comme ceux-là. Jean, la prochaine question vient de Félix Lapointe, de Monsieur Foot, pardon, qui nous dit « Il n'y a pas de Canadien dans la liste des 60 of the best young talents in world football. » Je le dis en anglais parce que ça a été publié dans le Guardian. D'abord, un, est-ce que c'est surprenant? Puis deux, la question de M. Foote, c'est « Quel est le ou les deux Canadiens que vous attendez le plus? » En fait, est-ce qu'on est obligé d'en attendre d'autres, ou est-ce que la jeune génération est déjà avec l'équipe senior?
Alors, je pense que, ouais, d'abord, faut voir les conditions dans lesquelles le Guardian fait sa liste. Donc, des joueurs qui ont moins de 18 ans, pour la grande majorité. Bon, deuxièmement, tu prends aussi en compte le fait que c'est une liste qui est effectuée à partir du travail et des remarques de divers correspondants. Donc, je suis pas persuadé qu'il y ait vraiment un correspondant. Pour le Canada, ce sera le correspondant aux États-Unis. Est-ce que s'il a 4 joueurs à mettre, combien, lesquels il va aller chercher, sachant qu'il va peut-être aussi mettre des joueurs mexicains. Donc, il y a un certain nombre de paramètres. Maintenant, est-ce que les joueurs sont, les jeunes bons sont déjà en sélection et sont déjà non, pas simplement des joueurs prometteurs, mais des joueurs qui ont déjà un statut, donc ils font va pas vraiment partie de cette liste-là. Évidemment, il y a Alphonso Davies, il y a Jonathan David. Moi, ce que je vois, c'est un joueur, même s'il est un petit peu plus vieux et qui ne rentre certainement pas dans les critères de la liste, un joueur qui, je pense, est amené à prendre beaucoup plus de rayonnement, c'est Marc-Anthony Kane, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a un potentiel vraiment impressionnant. Des jeunes, il y a Liam Miller, qui est à Liverpool, actuellement dans les réserves de Liverpool. Il a 17 ans. Je pense qu'il est... Il est pas mal sur le chemin des autres. Liverpool a un certain nombre de projets, d'ententes, pardon, avec plusieurs clubs qui pourraient permettre des prêts et qui pourraient lui permettre d'évoluer, en particulier avec les Rangers, où Steven Gerrard est entraîneur et où il y a déjà Scott Arfield, par exemple. Donc, je pense que ça, c'est un jeune qui serait intéressant de surveiller côté Canada. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter qu'il n'y ait pas de Canadien dans cette liste-là. Voilà plusieurs raisons qui font que non, ce n'est pas particulièrement étonnant et il faut regarder un petit peu en dehors de cette liste.
Ouais, et tu n'es pas obligé d'avoir moins de 18 ans pour encore être considéré comme un jeune joueur ou un joueur qui a une grosse marge de progression. En ce sens-là, Sid, si tu es John Herdman installé à la maison à regarder des matchs de MLS cette année, tu regardes l'impact puis tu es assez heureux, merci, de voir le temps de jeu d'un gars comme Zachary Broguillard.
Ah oui, tout à fait. Je pense que ces listes valent ce qu'elles valent. Je pense que c'est un travail très intéressant. Moi, j'ai tout de suite cliqué sur 2014 et 2015 pour voir finalement sur la durée c'était quoi les taux de réussite. Et oui, il y a des très belles surprises, très beaux noms. Je pense que une équipe comme le Canada, le fait qu'il n'y a pas eu les Jeux Olympiques, ben, ça empêche de voir tout un bassin de jeunes joueurs. Et c'est plutôt, c'est peut-être plus compliqué pour un programme qui est moins en vue d'aller sortir des noms. Je crois que c'est beaucoup plus quelque chose de logistique, un petit peu comme l'a amené Jean. Mais non, mais des joueurs de qualité, il y en a. On l'espère pour 2022, mais assurément pour 2026.
On revient dans tes années 80, Jean, parce que la dernière question nous ramène en Premier League. Je répète, le top 6 en Premier League aujourd'hui, c'est Everton, Aston Villa 2e, Leicester, Arsenal, Liverpool 5e, suivi de Tottenham, qui dans les circonstances a quasiment l'air de faire une bonne affaire de se retrouver dans le top 6 comme ça. La question, la dernière qui nous est posée, c'est celle de Charles Dauphinet. Est-ce que c'est fini pour le fameux top 6 traditionnel en Angleterre?
Je crois qu'il faut bien se poser la question. Comme disait Sid un peu plus tôt, je crois qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qu'il faut garder en tête. Sur le long terme, sur une saison entière, je pense qu'on va plus ou moins retrouver un certain ordre naturel. Il y a des clubs qui font des grands, grands pas pour venir intégrer les meilleurs, le haut du classement. On a vu que Leicester l'a fait il y a 4 ans, et ce qui m'a le plus marqué, c'est que Leicester est toujours là. Donc, ils ont peut-être eu une année un petit peu compliquée, qui était l'année de transition avec Claude Puel. Depuis que Brendan Rodgers est là, et le retour à des concepts très, très classiques qui conviennent bien, ils sont revenus. Et ce n'était pas simplement un truc surprise. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas et qui dure. Pour des clubs comme Everton, il y a clairement une volonté financière de pousser un petit peu plus haut. L'arrivée de Moshiri qui a dynamisé clairement les capacités financières du club. Il y a la perspective d'un stade, de changer de stade, que Goodison déménage et soit un autre endroit dans la ville, un peu plus près des anciens docks, et un beau stade correspondant vraiment à ce qui se fait un petit peu, ce qui s'est fait un petit peu ailleurs, que ce soit Arsenal, que ce soit Manchester City, que ce soit Tottenham. Donc c'est une équipe qui est un club qui est en pleine dynamique. Je serais pas surpris de les voir régulièrement, parce que la question c'est pas de les voir une fois participer d'être à la lutte, c'est d'être régulièrement là, même si une année c'est un peu moins bien, mais qu'ils soient régulièrement capables de dire « Nous, on vise une place en Ligue des Champions ». Et c'est un petit peu le type de discours qu'il y a du côté de Leicester. Donc oui, pour répondre à la question, je pense que ce qu'on appelait le Big Six est en train de, pas de disparaître, mais de se fondre, et que on va arriver à une tournante un petit peu régulière, une tournante d'ailleurs qui ressemble un petit peu quand la Première Ligue a existé. C'est quoi ? C'est 8 clubs de Première Division qui ont décidé, qui ont dit qu'ils allaient faire sécession parce qu'ils demandaient plus d'argent, vu que c'était les plus costauds et c'est ceux qui ramenaient le plus d'argent de la part des télés. Ils ont dit, nous, on fait sécession si on n'a pas une part plus grande. Et on revoit sensiblement les mêmes clubs dans ce Big Six. Il y a Everton qui en faisait partie, qui semble se rapprocher. Le seul qui soit encore un petit peu de côté, c'est Newcastle. Mais Newcastle a le potentiel. Il y a des raisons très ponctuelles et très individuelles, très liées au club qui expliquent pourquoi Newcastle n'est pas là. Mais je pense que, ouais, on arrive sans doute à une remise en question un petit peu de ce qui est l'élite du foot anglais, même si ça ne va pas disparaître. Hein. Je ne pense pas que le titre va échapper à une des grosses, grosses équipes, mais il y a une remise en question.
Ouais, et certains diraient que de toute façon, depuis quelques années, ce n'est pas un top 6, c'est un top 2 avec Liverpool et Manchester City. Wow. Et je répète que ces deux équipes-là sont présentement 5e et 14e. Donc, à suivre ce que ça va donner cette saison en Premier League. Les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, toujours un plaisir.
Dans les 15 dernières années, il y a seulement Leicester qui s'est qualifié en Ligue des Champions en dehors du Big Six. Dans les 15 dernières années.
Ça va changer,
je pense. Non, on te demande ce qui va arriver pour l'année prochaine. Fait que c'est là où on va voir Everton, Aston Villa et Leicester City en Champions League contre des équipes italiennes, allemandes, françaises. Ça va être extraordinaire. Tiens, Aston Villa au Parc des Princes, pourquoi pas? À suivre l'année prochaine, ce serait extraordinaire ça, pour enchaîner avec une année 2020. Pas possible. Les gars, merci beaucoup. Toujours un plaisir.
Merci.
Merci.
Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci de nous avoir posé vos questions. Continuez de le faire tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF. Et merci de consommer et partager le contenu sur le rds.ca/baladodiffusion ainsi que sur iHeartRadio.